Le texte biblique présente le portrait d'un artiste. Il se nomme Betzalel. Il reçoit sagesse, intelligence et savoir-faire pour réaliser la construction du sanctuaire du désert et de ses différents éléments, dont le tissage des tentures qui en délimite l'espace. Pour dire ce tissage, le texte biblique utilise l'expression « lachashov machashavot », c'est-à-dire littéralement « pensée des pensées ». Ainsi, en hébreu, « tisser » se dit « penser », équation qui se retourne pour nous signifier aussi que « penser », c'est « tisser », c'est « entrecroiser des fils », de telle manière, dit Rashi, qu'apparaissent de chaque côté une image différente, par exemple un lion d'un côté et un aigle de l'autre, arié misé, vénécher misé. Pourquoi Rashi choisit-il cette double image du lion et de l'aigle? Il aurait pu, par exemple, choisir l'homme et le taureau, présents également dans le char céleste de la vision d'Ézéchiel. Il me semble que Rashi offre l'une des réflexions les plus importantes de tous ses commentaires. Lui qui vécut à Troyes, dans la France du XIIe siècle, nous enseigne que pour la pensée qui se construit à partir de ce texte biblique, il ne peut y avoir d'espace de sainteté que si celui-ci est délimité à la fois par le lion, symbole du judaïsme, et par l'aigle, symbole des nations. Idée qui, par son intermédiaire, va irriguer tout le judaïsme jusqu'à aujourd'hui et qui témoigne d'une particularité fondamentale de la France et d'un esprit français que les Juifs de France ont contribué à construire et qui les a aussi construits en retour. Ce tissage, Rashi en donne un exemple, en français justement, ce qui n'est pas rare dans son œuvre, véritable conservatoire de notre langue, mais qui souligne assurément son insistance à qualifier ce qui se joue d'exceptionnel dans le pays naissant, qu'il n'appelle d'ailleurs plus seulement Tsarfat, en hébreu, mais Frantsa. Ce tissage inédit et presque magique apparaît ainsi, dit-il, sur un faces, mot qui en langue d'oeil signifie ceinture, sur laquelle, d'un côté une image et de l'autre une image différente. Il n'est donc pas qu'une image, une figure de style, mais un objet concret fait de main d'artiste. À suivre le sage de Troyes et son ruban de soie, une conception exigeante mais lumineuse de la culture humaine se dessine, subtile texture qui n'efface rien des singularités dans l'espace construit qui est la trame de leur dialogue. Et cela semble bien sûr être pour lui un phénomène singulièrement français. Le commentateur biblique, rêvait-il? Son enseignement de si haute portée a-t-il creusé son sillon jusqu'à nous depuis le XIIe siècle? C'est avec un ethnomusicologue que j'ai souhaité envisager cet héritage. Hervé Rothen, bonjour.
Bonjour, Marc Alain.
Hervé Rothen, vous êtes docteur en musicologie et directeur de l'Institut européen des musiques juives, qui fait un immense travail de recherche, d'archivage, de publication, de partition, de production des musiques juives à travers le monde. Les auditeurs se souviennent de votre précédente venue dans Talmudic, où vous nous aviez fait entendre comment la mère Michel qui a perdu son chat, ou encore un air de Mozart, se retrouvait dans telle ou telle prière de la liturgie juive. Ce que nous allons découvrir avec vous aujourd'hui sont les liens et les influences mutuelles en France entre chansons juives et chansons françaises depuis le début du XXe siècle, en insistant tout particulièrement sur l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces recherches, vos travaux témoignent d'un intérêt particulier pour ces questions d'influence croisée et d'inspiration mutuelle entre les cultures juives et les nations, comme on le disait à l'instant. La musique vous semble-t-elle, Hervé Rothen, en être l'écrin ou la matrice privilégiée?
Écoutez, à l'instar de ce que vous avez dit du commentaire de Rashi, les musiques juives s'inscrivent totalement dans la pensée de Rashi avec cette ceinture à double face. En fait, les musiques juives, vaste terme sur lequel je travaille depuis plus de 25 ans, offrent, si vous me permettez cette expression, une singularité plurielle ou une pluralité singulière. En effet, on peut les voir de multiples façons. Elles ont une épaisseur assez unique qui résulte en fait de l'histoire des juifs, de la diaspora juive, qui est en fait ce mélange constant entre les juifs et la culture environnementale des pays dans lesquels ils se sont installés. Et c'est ça qui a fait le judaïsme, et c'est ça qui différencie le judaïsme français d'autres sortes d'autres judaïsmes, le judaïsme maghrébin, le judaïsme d'Europe de l'Est. Et c'est ce phénomène passionnant est tout à fait appréhensible à travers les musiques. Il suffit d'entendre et on comprend.
Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. On va écouter et on va comprendre. Donc il y a véritablement une spécificité de cette rencontre des musiques juives et musique de l'environnement, mais particulièrement en France. Vous avez donc étudié récemment un tissage musical plutôt inattendu et qui me semble très éclairant pour nos temps troublés, l'après-guerre à Paris, mais pas seulement. Comment en êtes-vous arrivé à mener cette étude, Hervé Rothen?
Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement que ce mélange s'exprime particulièrement dans la chanson. Puisque la chanson juive, ou les chansons juives bien sûr, sont absolument révélatrices d'un vécu, d'une intégration, d'une volonté justement de transmettre. Vous savez, souvent les juifs sont des passeurs. Là où ils arrivent, ils prennent, ils donnent. Et ils sont ce maillon de chaîne qui fait que non seulement ils enrichissent le terreau dans lequel ils s'enracinent, mais eux-mêmes s'enrichissent en même temps de la culture environnante. Et c'est cette rencontre qui est formidable. Et ça s'exprimait plus particulièrement dans la chanson. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait vu que ça pouvait s'exprimer dans la liturgie au niveau de la musique. Mais dans la chanson, c'est encore plus flagrant. Donc cet intérêt pour la chanson, je l'ai développé autour de la sortie d'un coffret qui s'appelle « Musique juive dans le Paris d'après-guerre », publié par l'Institut européen des musiques juives, puisqu'on a eu la chance d'avoir, juste après-guerre, des enregistrements formidables effectués dans les cabarets, notamment les cabarets juifs, les cabarets yiddish, mais aussi il existait des cabarets orientaux, même déjà d'ailleurs dans les années 1920.
Alors c'est très étonnant, ces cabarets yiddish, il y avait des salles de concert aussi. Dans ces musiques de cabaret yiddish, qu'est-ce qu'on entendait comme musique?
Alors c'était avant tout de la musique pour les gens qui arrivaient. Ils avaient cette nostalgie évidemment, notamment d'Europe de l'Est, mais du Maghreb également, donc du shtetl ou du village. Et donc ils désiraient retrouver les musiques de cet environnement un peu perdu. Donc on avait des cabarets, surtout à Paris, hein, ça se passe notamment à Paris, autour de la place de la République. Dès les années 20, on a une multitude... Je vais vous citer quelques noms de cabarets donc qu'on trouve autour de la place de la République, notamment donc le Habibi Club qui s'appelait avant le Tirancho. On trouve également le cabaret de Bernard Potok et Dave Cash qui s'appelle La Riviera. Et par la suite d'ailleurs, Dave Cash va s'installer après guerre autour de Pigalle, donc il va rejoindre le Paris chantant de Pigalle et il va créer son cabaret qui s'appellera le cabaret de Dave Cash. Les cabarets orientaux, eux, sont plus situés du côté du quartier latin. Là, on a donc le Soleil d'Algérie, le El Jazair, le Tam Tam, enfin toute une série de cabarets où on ne joue pas uniquement d'ailleurs des musiques juives orientales, mais des musiques orientales, comme dans les cabarets dits yiddish, on entend également de la musique tzigane, de la musique russe, donc on a déjà un mélange.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez essayé de faire une typologie de ces musiques en fonction de l'évolution des différentes vagues d'immigrés d'une part et d'autre part des différentes générations, c'est-à-dire que on voit à travers les musiques, vous allez nous l'expliquer, que plus on avance dans le temps, plus on est dans la deuxième, troisième, quatrième génération, c'est-à-dire plus il y a eu intégration, plus le français va entrer dans la composition des musiques. Mais au départ, dans les années tout de suite après-guerre ou même avant-guerre, on a des musiques qui sont des adaptations et des traductions. Je pense que c'est le premier moment de votre typologie, d'une certaine manière,
oui, Hervé Rothen. Tout à fait. Si vous me permettez une image, c'est un peu comme si vous transplantez une vigne ou un cépage d'une vigne dans un autre terroir. La première année, les premières récoltes, vous allez avoir un goût qui va être peut-être celui du terroir originel. Et puis progressivement, au fur et à mesure des années, des générations qui vont se succéder de vignes et de cultivateurs, il va y avoir un mélange qui va se créer entre le sol, la terre, et ces vignes qui viennent d'ailleurs, qui poussent, pour donner un vin unique. Et là, on est exactement dans ce cas de figure avec ces chansons juives. La première génération, comme vous le dites, souvent, en fait, reprend... Alors c'est toujours intéressant, soit reprend des airs français et les adapte et les traduit dans leur... En fait, reprend Alors c'est toujours intéressant, soit reprend des airs français et les adapte et les traduit dans leur langue d'origine, donc dans leur jus de langue, ça peut être du yiddish, ça peut être de l'arabe, ça peut être du judéo-espagnol, et on va l'entendre, là je vous ai apporté plusieurs exemples. Le premier est tellement parlant, c'est le célèbre air des feuilles mortes, notamment chanté par Yves Montand, mais qui remonte, qui est plus ancien, et qui a été enregistré par Dave Cash, qui était un de ses interprètes des cabarets yiddish dans les années 50. C'était enregistré en 1951, et évidemment vous allez reconnaître la mélodie, mais les paroles sont rigoureusement en fait la traduction des paroles françaises, sauf que c'est du yiddish.
Gewollt, dass die sollst dich der Mannen, die Teig, wenn wir sennen gewesen, noch frei. Wir sennen gegangen, spazieren zusammen, die Sonne hat gescheint noch viel stärker wie heim. Heim fallen die Blätter verwelkte von Bäumen, mein Herz euch verwelkt. Denn sie weint, denn sie schreit. Sie fallen die Blätter verwelkt auf den Bäumen. Denn ich bin allein nur mit meiner Treurigkeit. Der Wind juckt die Blätter mit sich mit in eine schwarze, vergessene Nacht. Nur das Lied vergessen kenn ich nicht, wo's die hast vor mir euch getracht. Das ist das Lied von deiner Liebe, das ist der Liebe, ein Mugewein. Ich hör das Lied in alle Stiebe, nur dich allein kann ich nicht sehen.
Hervé Rotten, on entend les feuilles mortes en yiddish. Il y a donc un très grand public pour ce genre de musique.
Tout à fait. Ce sont ces Juifs qui sont arrivés en France, souvent dans les années 20, parfois antérieurement d'ailleurs, à la fin du 19e siècle. Et la première génération, elle parle encore le yiddish, c'est sa langue maternelle, elle s'exprime en yiddish. Et elle entend ces mélodies, elle entend les feuilles mortes, elle ne comprend pas forcément le français, mais elle aime beaucoup la mélodie. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On adapte en fait la mélodie, on traduit tout simplement d'une langue à l'autre.
Alors, ils se réunissent souvent, dit l'histoire, dans les cafés de la place de la République, et j'ai en tête une petite histoire où ces Juifs sont rassemblés et le serveur dit: vous êtes aussi du groupe A pas de loup? Alors j'ai dit oui, on n'a pas de loup, et en fin de compte ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils demandaient un café, ils demandaient un café avec un peu d'eau, mais avec leur prononciation dit yiddish, dit on veut un café à pas de loup avec un peu d'eau. Vous voyez, donc il y avait ce langage mixte, mais pas seulement yiddish, puisque il y a aussi des populations, des immigrés qui viennent du côté de la Turquie, du côté des Balkans, dont la langue est plus le ladino, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, c'est un peu plus tardif, et ils se retrouvent, eux, dans des cabarets plus orientaux.
Oui, en fait, dès les années 1920, on a beaucoup de juifs musiciens algériens qui viennent en fait, je vais dire un peu comme la chanson, chercher fortune à Paris. C'est quand même le centre du monde pour l'enregistrement, pour la chanson. Donc, il va se créer des studios. Hein. Tout ça, ça va avec la naissance aussi des studios d'enregistrement phonographique. Enfin, et donc ils vont enregistrer leur chanson, qui après d'ailleurs va être redonnée en Algérie ou dans leur pays d'origine. C'est ainsi qu'on trouve par exemple Lili Boniche, qui était un chanteur avec une voix extraordinaire, un crooner. Bayer, qui a épousé une comtesse par la suite, qui l'a empêchée de chanter parce qu'elle voulait le garder pour elle uniquement, et qui a repris la célèbre chanson de Dalida de 1956, alors là on est un peu plus tardif, mais qui chante donc sa chanson Bobino, mais alors tout à fait à l'oriental.
عينك بكى وتظهر حزين مشغول البال شافك النوم دات حياتك والأمال وحدك ما حطر تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانت في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له
Alors, Hervé Rotten, là, nous avons passé deux exemples de chansons classiques, si on peut dire, chansons françaises, mais auxquelles on a rajouté des paroles, soit en yiddish, soit en judéo-langue, et ici en judéo-arabe, ou en arabe, mais on trouve aussi à l'inverse, c'est-à-dire que on a une musique qui est yiddish, une chanson qui est yiddish, et là on va mettre des paroles françaises, comme c'est le cas par exemple de René Lebas. Alors qui est cette René Lebas ?
Alors René Lebas était une grande dame de la chanson française. On a oublié qu'elle a égalé Piaf, c'était même ça, la principale concurrente de Piaf. Elle s'est retirée très tôt en fait de la chanson, elle avait 47 ans, mais c'était déjà la période yéyé qui commençait, elle a senti que le vent tournait. Elle avait une voix extraordinaire, et elle était d'origine juive, elle était arrivée avec ses parents également dans les années 10, dans les années 20, en France. Et donc, elle s'adressait à un public différent. Son public, c'était le public aussi d'Edith Piaf, c'était la chanson française. Mais son intégrité juive, elle l'a conservée profondément. Donc, elle a écrit des chansons françaises. Elle a fait souvent appel à des compositeurs ou des arrangeurs juifs, comme Marnet, comme Stern, etc. Et elle a notamment repris deux grands tubes, entre guillemets, de la chanson yiddish. Alors, c'était Aïe de chez maman et la mère juive qu'elle chante donc sur une chanson qui s'appelle Mamie et une autre chanson qui s'appelle Tire l'aiguille que tout le monde connaît qui est un de ses grands succès qui est en fait inspiré d'un air klezmer, un air instrumental qui s'appelle Tanz Tanz Yiddelar qui veut dire danse danse petit juif mais également d'une chanson yiddish qui s'appelle Der Rebbe hat geheißen sein Freiler ou Yoshke Yoshke parce que vous savez les chansons elles ont plein de titres ça c'est pas gênant. Et donc, on l'entend, on va entendre cette chanson « Tire, tire l'aiguille » sur cet air traditionnel klezmer.
Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain, demain, tu te maries, mon ami. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs faites de paillettes, de diamants. Le diadème d'oranger porte bonheur est entre les mains de ta maman. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta chambre est couverte de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis s'en donne à cœur joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance et berce ton père endormi. Ta maman, sans dire un mot, achève de plier ton trousseau. Ton papa saura demain, après le bal, qu'un mariage coûte bien du mal. Laï, 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 tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 tire, tire l'aiguille, ma fille.
La lumière de la... Alors, Hervé Rotten, Roten, c'est très émouvant. Moi, je trouve que ça fait très longtemps qu'on connaît cette chanson.
Ah, c'est une très belle chanson. Il faut redécouvrir René Lebas.
On est dans un nouveau cas de figure. Là, on vient de voir comment on allait du français vers la judéo-langue, c'est-à-dire comment on a traduit les feuilles mortes en yiddish ou comment on a traduit Bambino en judéo-arabe. On vient de voir maintenant l'inverse, comment on passait du yiddish traduit en français ou une adaptation. Mais il va y avoir un autre cas de figure qui est l'adaptation et la traduction multilingue. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange, c'est-à-dire que on n'est plus simplement du français vers le yiddish, parce que peut-être la deuxième génération parle plus le français, et donc on va intégrer plus de paroles françaises, ce qui est le cas par exemple de ce morceau « Chérie, combien je t'aime » chanté par Louisa Tuncia, une chanson de 1935. Que vous pouvez nous présenter.
Alors, Louisa Tuncia, donc, était originaire de Tunisie, mais après, évidemment, elle a circulé dans tout le Maghreb. Faut bien voir que le Maghreb, en particulier l'Algérie, mais aussi la Tunisie, mais l'Algérie surtout, et j'allais dire, a pour modèle la France. Les Juifs ont la nationalité française en Algérie, et donc ils connaissent parfaitement la chanson française. Ils vont donc s'intégrer dans cette chanson française en reprenant des airs très connus, donc Chérie, combien je t'aime, ça c'est une chanson qui a fait le tour du monde. Même Charlie Chaplin la reprend dans son film Les Temps modernes. On se rappelle tous de cette scène où il est dans ce café, lui aussi à un cabaret, il va danser, puis il a glissé les paroles qu'il a oubliées dans ses manches et les paroles s'envolent, alors il improvise. C'est d'ailleurs une des premières scènes parlantes des films de Charlie Chaplin. Donc c'est cette Chérie, combien je t'aime, c'est en fait d'après sur l'air de Je cherche après Titine, qui était une chanson humoristique de 1917, qui a été écrite pendant la guerre de 14-18 d'ailleurs, par Berthald Maubon et Henri Lemonnier, mise en musique par Léo Daniderf, et qui a été repris jusqu'à mon temps et même très tardivement. Et là, donc, comme vous l'avez mentionné, on va l'entendre, mais on plaque dessus parfois des français et mélangé avec de l'arabe.
Effectivement, Titine est très présente dans cette chanson et on revoit bien la scène avec Charlie Chaplin. Alors là, on voit comment il y a ce mélange des langues. Ça rejoint un petit peu ce qu'on trouve dans les piyutim, c'est-à-dire dans les chants liturgiques où on a à la fois la langue vernaculaire et en même temps la langue l'hébreu.
Les piyutim sont en fait les ancêtres de la chanson. Les piyutim, ce sont des poésies religieuses certes, mais des poésies populaires. Donc on trouvait ceci déjà dès le XIIIe siècle dans les chants des juifs avec ce mélange avec les poésies des trouvères ou des troubadours dans le sud de la France. On trouve ça juste jusqu'au XVIIIe siècle dans le conte avenessin. Je suis obligé de sauter des siècles parce qu'en fait, dans ces musiques juives, on a peu de traces. Rien n'a été noté, tout relevait de la tradition orale. Donc on trouve de ça et de là quelques traces comme ça, mais c'est constant, sans arrêt. On a ces chansons, cet emprunt, ces poésies religieuses où on mêle donc la langue du pays, la langue vernaculaire, avec l'hébreu généralement.
Alors c'est un peu le cas de cette musique que nous n'avons pas commentée, qui était tout au début de l'émission, avant que je commence à présenter l'émission, où on a eu une musique de trouvère du XIVe siècle.
Du XIIIe siècle.
Du XIIIe siècle, donc à peu près, un peu après l'époque de Rachi. Et c'était une chanson en langue d'œil, donc dans cette langue que Rachi a utilisée pour ses propres commentaires. Et c'était une chanson de Pessar, ce qui veut dire que déjà à l'époque, la chanson juive, entre guillemets, si on peut dire, était déjà multilingue.
Vous savez, les Juifs, ils parlaient, ils mangeaient, ils respiraient le même air que leurs voisins. Donc leur chanson, elle est faite des mêmes airs que leurs voisins. On reprend exactement ces mêmes airs qu'on aime beaucoup. Et puis, on va simplement soit mettre une judéo-langue, soit parler d'un sujet juif qui va être propre à ce que vivent les gens, c'est tout.
Alors, dans cette question de sujet juif, on le verra la semaine prochaine dans la seconde émission que nous consacrons à ces rencontres entre chansons juives et chansons françaises. Mais il y a un exemple tout à fait intéressant. Là, on a vu comment il y avait la traduction, comment il y avait l'adaptation, comment on passait des langues juives comme le yiddish ou les judéo-arabes ou le ladino, on n'en a pas parlé, dans le français. Mais il y a aussi le cas où des artistes français empruntent des chansons juives en leur mettant soit des paroles seulement en français, et parfois même en gardant une partie de l'original en yiddish. Par exemple, c'est le cas de la chanson de Baymir Bistouchen, qui est chantée par Léo Marjan.
Oui, alors c'est une chanson très emblématique à deux niveaux. D'abord, encore une fois, tout le monde connaît cette chanson. Quand vous allez l'entendre, vous la reconnaîtrez. Chanson très connue. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que Léo Marjan n'est absolument pas juive, mais cette chanson l'a inspirée. Et là, on voit bien les allers-retours constants entre ce que les juifs empruntent à leur environnement, mais aussi ce qu'ils donnent à l'environnement. Donc ça se nourrit mutuellement. Et beaucoup d'artistes français vont donc prendre des airs juifs qui leur plaisent et les chanter. Léo Marjan, c'est d'autant plus intéressant que cette chanson qu'on va entendre date de 1938. Léo Marjan va chanter d'autres chansons d'ailleurs juives. Elle va prendre d'autres airs. Et ce qui est un peu incompréhensible, c'est que pendant la guerre qui va suivre, la Seconde Guerre mondiale, elle n'aura pas une conduite irréprochable. Enfin, on lui reprochera en tout cas d'avoir chanté devant les nazis. Donc, elle aura même un procès en collaboration, elle en sortira blanchie. Mais c'est étonnant par rapport à tous ces emprunts qu'elle a faits à l'époque et toutes ces chansons juives qu'elle a chantées.
J'ai vu dans l'ombre vos yeux immenses. Mon cœur est plein de folle espérance et je pense à vous le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même. Et pour vous dire que je vous aime, je ne sais pas de plus beau poème que cette phrase de mon pays. Baymir Bistouchen, cela signifie vous êtes pour moi plus que la vie. Baymir Bistouchen veut dire en amour, chérie, je suis à vous pour toujours. J'aurais voulu pourtant vous dire tout en français, mais j'ai le cœur battant et c'est en vain que j'essaie. Si vous comprenez Baymir Bistouchen, alors dites-moi que vous m'aimez. Mmh.
Ce qui est intéressant en plus, c'est que il y a derrière évidemment un arrangement musical très jazz, et on est complètement dans son époque. Ne jamais oublier que ces artistes chantent pour vivre, donc ils chantent les chansons de leur temps, qu'ils soient juifs, pas juifs, tout le monde s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est justement d'être à l'unisson de son temps.
Alors l'unisson de son temps, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, parce qu'après ces traductions, ces adaptations que nous venons de voir, nous allons assister à une troisième phase, celle de la création musicale de chansons sur un thème de vécu juif, c'est votre expression. Merci Hervé Rotten pour cette belle leçon de musique aujourd'hui. On peut retrouver toutes les références musicales que nous avons écoutées aujourd'hui sur le site de l'émission et sur le site de l'Institut européen des musiques juives. Je rappelle aussi le titre du coffret que vous venez de publier, qui s'appelle « Musique juive dans le Paris d'après-guerre », dont on trouvera toutes les références sur votre site et celui de l'émission. Merci encore Hervé Rotten, c'était un vrai plaisir.
Plaisir partagé, merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wakening et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Jean-Michel Bernot, à la réalisation, comme toujours, Dany Journeau, qui dansait d'ailleurs avec les musiques que nous avons passées. Coltouv, Leitrot, au revoir, bon dimanche à tous, bonne fête de Pessah et à la semaine prochaine.